Vous écoutez
RMC. RMC. Le bras de fer GG.
Sidor qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné.
C'est de la potion magique?
Non, c'est de la soupe de marron.
Il lève les bras aussi à Yannick Sidor, il remporte l'US Open.
Un druide gaulois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Elle donne une force, mais d'une force.
Ladies and gentlemen, your 2022 US Open Women's Champion, Iga Świątek.
Non, mais toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Votre deuxième, le retour de Kenin est dedans. Et là, Świątek a une bonne patate en coup droit, et voilà.
Accélération de coup droit.
J'ai justement rapport à cette potion magique.
Elle Roland-Garros à 19 ans.
Ah, ça y est, elle est en train de se rendre
compte. Et là, les bossions la fauchent.
Ces bossions sont invincibles, ils sont gavés de potions magiques. On... peut-être plus d'abandonner.
Tout simplement trop forte. Iga Świątek. La Polonaise écrit son histoire. L'histoire de ce tournoi avec ce quatrième titre ici à Roland-Garros.
C'est un nouveau tremblement de terre dans le monde du tennis. Après Yannick Sinner, numéro 1 mondial, Iga Świątek, numéro 2 mondial, a été contrôlé positif. C'était en août dernier, hors compétition, après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. La substance en question, la triméthadisine, pardonnez-moi, utilisée pour prévenir l'angine de poitrine. Des traces infimes ont été retrouvées dans ses urines. La quintuple vainqueur de Grand Chelem a été suspendue. Un mois, le tennis a-t-il un problème avec le dopage? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée ce matin par Christophe Cessieux et Fred Weiss. Dans le coin droit, la team Non, Julien Beneteau, Pascal Duprat. Alors avant de débattre, de vous donner déjà un aperçu, une tendance de notre estimation sur le compte X des grandes gueules du sport, on va retrouver notre spécialiste tennis sur RMC Sport. C'est Anthony Reich. Bonjour Anthony.
Bonjour à tous.
Alors déjà, il faut dire quelque chose, c'est comme Yannick Sinner, ce contrôle positif a été révélé quelques mois plus tard.
Oui, une procédure totalement secrète, comme d'habitude avec l'ITIA, l'agence qui gère les contrôles anti-dopage dans le tennis mondial. Rappel des faits, le 12 août, comme tu le disais, JC, Iga Świątek est soumise à un contrôle anti-dopage hors compétition qui la révèle positive à la triméthadisine, dit TMZ. Elle est prévenue des résultats le 12 septembre, ce qui explique notamment qu'elle a pu participer à l'US Open sans autorisation thérapeutique. Świątek est alors suspendue provisoirement et ne peut donc pas participer à 3 tournois de la tournée asiatique, pour lesquelles à l'époque elle déclare forfait, je cite, pour raison personnelle. Le 22 septembre, elle fait appel de cette décision auprès d'un tribunal indépendant. Elle donne alors l'explication, la mélatonine, un médicament pour le trouble du sommeil acheté en Pologne dans une pharmacie, a été contaminée par cette fameuse TMZ, explication validée par ce tribunal et l'Agence mondiale antidopage. La suspension provisoire est alors levée. Świątek peut terminer la saison normalement. Le 27 novembre dernier, elle est informée d'une suspension d'un mois dès l'officialisation. La numéro 2 mondiale prend la parole dans une longue vidéo sur ses réseaux.
Cette expérience la plus dure de ma vie m'a beaucoup appris. Tout ça va rester durant toute ma vie. Revenir m'entraîner après une situation comme celle-là qui m'a presque brisé le cœur va me donner de la force. Il y a eu beaucoup de pleurs et de nuits sans sommeil. Le pire, c'était l'incertitude. Je ne savais pas ce qui allait se passer et comment tout ça allait finir. J'ai dédié ma vie pour avoir une carrière qui pourrait être donnée en exemple aux générations à venir en respectant les valeurs du sport.
Alors les 3 semaines de suspension provisoire deviennent désormais de la suspension ferme avec cette sanction définitive que la numéro 2 mondiale, je cite, a acceptée selon l'ITIA. Il lui reste donc une semaine à purger jusqu'au 4 décembre, période sans tournoi et donc sans contrainte pour elle.
Merci beaucoup Anthony Reich, tu restes avec nous pour ce débat, pour un complément d'information. Le tennis a-t-il un problème avec le dopage? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Il n'y a pas de débat pour vous les auditeurs. On vous a posé donc la question sur le compte X des grandes gueules du sport. 85% oui, il y a un problème avec le dopage. 15% non. Julien Beneteau, Pascal Duprat, vous avez du boulot. Julien, évidemment spécialiste tennis, on commence avec toi. Pourquoi non?
Je pense pas que le tennis en lui-même a un problème avec le dopage. Je pense que le problème, c'est l'ITIA. C'est la communication qu'il y a autour de ces cas, la différence de traitement qu'il y a autour de ces cas.
Qui laisse place au doute, c'est ça?
Bien sûr. Et que c'est mal géré, que c'est mal communiqué et que c'est comment dire et que ça suscite l'interrogation et que je comprends qu'il y ait 85% du public, enfin des auditeurs sur X, qui pensent que le tennis a un problème avec le dopage. Quand on pose la question, le tennis a-t-il un problème avec le dopage, on peut se dire, tiens, est-ce que ça veut dire que une partie des 100 premiers mondiaux est dopée, que l'ATP, la WTA camoufle tous les joueurs positifs, qu'il y a un vrai système organisé, etc. Ça, c'est impossible. Moi, j'y étais dedans, c'est impossible. On est contrôlé tout le temps, très souvent, beaucoup de contrôles inopinés. C'est-à-dire que en tournoi, quand on fait une performance, on sait qu'on est contrôlé, mais le nombre de contrôles inopinés chez nous, à notre domicile, en période hors tournoi, notamment en France avec la FLD, moi, j'en ai eu, on en avait entre 8 et 10 par an, en plus de contrôles. Donc, il y avait une quinzaine, une vingtaine de contrôles par an pour un sport individuel itinérant. C'est assez conséquent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un dopage
organisé
évidemment. Alors, après, l'ITIA, il faut vraiment qu'aujourd'hui, il y ait une harmonisation au niveau de la communication, au niveau des sanctions, entre l'appel, est-ce que c'est suspensif, pas suspensif, tel produit, combien de temps c'est, etc. Là, on a l'impression qu'en fonction
du classement,
exactement,
c'est au petit bonheur la chance, quoi.
Et encore.
Mais est-ce que t'es sûr de cette impression-là? Parce que moi, je crois pas capable un organisme aussi important et qui a été par imposé par la Fédération internationale de tennis puisse permettre des cas particuliers. Alors, c'est pas possible.
Je suis d'accord avec toi. J'en suis pas sûr, Pascal, parce que j'allais prendre le contre-exemple. C'est Simona Halep qui a été quand même numéro 2 mondial et qui a un grand nom du tennis féminin et qui elle, quand a été contrôlée positive à une substance. N'a pas eu la même mensuétude, ou en tout cas
4 ans.
Voilà,
4 ans, ça a été réduit à 9 mois. Mais 9 mois, c'est pas un mois. Hein,
mois, c'est pas un mois. Alors là, dans le cas de Swiatek, pourquoi c'est un mois aussi? C'est-à-dire qu'hier, je suis allé lire ce qui se dit sur la TMZ en question. Il y a beaucoup d'experts qui et notamment avec la dose trouvée, qui disent, mais à aucun moment, ce produit peut améliorer la performance. Et pour moi, le dopage, ça part de là. C'est on prend un produit pour améliorer la performance. Et qui plus est, qui est interdit. Pour moi, c'est ça, le dopage.
Bon, après, le produit interdit est interdit. C'est comme ça. C'est la base du dopage. Peu importe si te fait avoir des performances meilleures ou pas.
T'as raison.
Sur le principe,
c'est interdit. Il est interdit. T'as raison, Fred. T'as raison. Quand il est interdit, il est interdit. Mais alors, voilà. Pourquoi il est interdit? On en parlait hors antenne. Les laboratoires sont de plus en plus performants et les microdoses sont
détectées,
sont de plus en plus détectées. Et tant mieux, parce que ça veut certainement dire qu'il y a certains athlètes dans plein de sports qui peuvent utiliser des produits interdits pour améliorer les performances sur des microdoses, et ça, ils passent à travers les mailles du filet. Et donc parfois, il y a des cas où on se retrouve positif. Et la communication qu'en est faite, on sent que l'ITIA, elle patauge totalement. Et c'est ça le
fond du problème, c'est la communication, c'est pas le dopage.
Mais est-ce qu'on peut reprocher
cette... Pour moi, c'est la gestion du dopage.
Ouais.
Oui, l'opacité de la communication, on peut pas leur reprocher d'être opaque sur la communication. Ils attendent que les comment dire les
non, mais si, par
l'appel
exemple,
l'appel soit fait, qu'il y ait les résultats pour ensuite communiquer. Est-ce une faute pour autant de communiquer?
Ça là-dessus, c'est pas une faute, Pascal. Mais regarde bien ce que dit l'ITIA. Une fois que tout le process a été fait, Iga Swiatek accepte la suspension.
Oui.
Il communique comme ça. Mais une fois que tout est fait, que c'est prouvé qu'elle est positive à échantillon B, échantillon A, échantillon B, etc. Mais Swiatek, elle n'a pas accepté la sanction. C'est normal qu'elle soit sanctionnée.
Bah oui.
Et rien que ça, c'est ce problème de communication. Enfin, ce serait pas.
Mais cela dit, elle devait être au courant en amont, puisqu'elle a arrêté trois semaines.
Mais elle était suspendue. Donc,
mais il n'y avait pas de communication.
Elle a été, sa suspension a été levée, c'est-à-dire qu'elle a pu faire 2-3 tournois, et on lui a remis une petite semaine.
Exactement.
Une semaine où il n'y avait pas de tournoi.
Parce qu'elle n'a pas perdu son
C'était une sanction aux petits oignons.
Et pendant ces tournois, juste pour préciser, après je te donne la main, Fred, pour ces tournois en Asie, on ne savait pas pourquoi elle n'était pas présentée. Elle a dit qu'elle avait des difficultés, qu'elle était un peu blessée.
Sinner a pris 5 mois de suspension. Enfin, on l'a appris 5 mois plus tard.
Ouais.
On savait pas pourquoi.
Alors, pour le coup.
Je suis désolé, mais quand tu as un numéro 1 mondial, moi, j'aimerais qu'on nous dise. Alors peut-être qu'il y a des excès dans la justice courante et que des gens qui sont mis en examen sont montrés du doigt parce que leur affaire sort. Mais ça permet aussi aux gens de débattre de ça.
Je suis d'accord.
D'avoir des avis contraires. Faire tout en silence et
l'opprobre aussi.
Non.
Ce sont des sportifs de haut niveau.
Non, mais alors,
ça la jette plus à posteriori, je trouve.
Moi j'aimerais poser.
Moi, je suis d'accord avec Christophe. Mais sur le cas Sinner, par exemple, je connais une personne qui travaille, qui est au board de l'ATP, et qui m'a dit le CEO de l'ATP a appris 2 jours avant. Le cas positif de Sinner 2 jours avant que ça ne sorte, 5 mois plus tard. C'est fou.
C'est un vrai problème de communication.
C'est
la gestion qui semble tellement amateur. L'opacité des contrôles, on comprend pas. Les suspensions, ils sont suspendus, personne ne sait. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jatek? Elle a dit, non, mais c'est un problème personnel. Mais non,
en fait, voilà.
C'est ça le problème. C'est un vrai problème. Quand on parle de dopage et de problèmes de dopage, dans tous les sports, il y a des problèmes de dopage. Sauf que, être aussi opaque, ne pas dire les choses, ne pas expliquer, ben ça
pousse renforce sa suspicion.
Exactement, il y a des suspicions énormes. Et on a aussi l'impression des deux poids deux mesures. On en a parlé tout à l'heure, les deux poids deux mesures. Et quand Lama retoque Litia, tu te poses des questions.
L'agence mondiale antidopage.
Écoutez ce que disait Pierre Bordry, qui est l'ancien président de la FLD au sujet de Litia. Il dit c'est le seul sport, le tennis, où il y a une instance propre à une discipline. Non, c'est Jean-Pierre Verdy, hein, l'ancien patron des contrôles de la FLD qui dit ça. C'est le sport à part, mais personne ne dit rien. Le tennis est une anomalie. On ferme les yeux pour la beauté de ce sport, mais la face cachée est terrible. On s'est battu bec et ongles pour faire des contrôles, mais on a toujours reçu un non catégorique de Litia. Il ne fallait pas mettre les pieds dans le plat parce que ça faisait des ordres. En quelque sorte, on a l'impression que cette instance indépendante
qui couvre le dopage et le
fait à sa sauce, quoi. On s'arrange entre amis.
Bien sûr.
Et surtout, faut pas que ça fasse de vagues. Mais alors, moi, je pense que
j'arrive pas à croire ta théorie du complot.
Ces choses-là, ce genre de choses, a été fait par des fédérations après les scandales qui ont touché le monde du vélo. Le vélo s'est tiré une balle dans le pied en dévoilant les choses dans les années 90 et a souffert et continue de souffrir terriblement de ça derrière puisque son image est complètement dégradée. Et je pense que les autres fédérations ont vu ça et savent qu'elles peuvent elles aussi être touchées par des problèmes de dopage et donc ont essayé de mettre en place des systèmes pour éviter que ça parte
La suspicion, justement, le fait que ça soit aussi
complètement. Moi, je suis d'accord avec Julien, je pense pas que le tennis ait un problème particulier
avec les dopage. Pas plus que les autres.
Je pense pas que Sciantec était dopé. Son produit, effectivement, c'est pas un produit qui améliore la performance.
Oui, sauf que cette façon de cacher les choses, ça jette
le doute sur cette fédération et sur le tennis.
Complètement d'accord.
Pascal Duprat.
Non, je pense que au contraire, à terme, à condition bien sûr que les sanctions soient uniformisées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures, le fait qu'il taise jusqu'au dernier recours du joueur incriminé, qu'il taise des sanctions encourues, je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression, je sais pas avéré ce que je dis, je m'en remets à Julien, j'ai l'impression que souvent on entend, on lit qu'il y a deux poids, deux mesures. Ça me surprend. Mais l'opacité de la communication de la sanction, moi, ça me surprend pas, bien
donc,
au contraire.
Donc quelqu'un qui est suspendu 3 semaines et qui prétexte des problèmes personnels, alors que ça n'a rien à voir.
Non, il est dans cette période-là suspendu à titre conservatoire. Charge à lui de prouver son innocence.
Non, mais oui, d'accord, mais alors c'est là où je pense que l'ETIA, et je parle sous le contrôle d'Anthony, avec la WTA, pour éviter justement ces suspicions, tournée asiatique, Wuhan, Pékin, etc., Iga Świątek, elle est forfait. Pourquoi ? Si le règlement, c'est... Elle est contrôlée positive.
Je suis d'accord avec toi.
Il y a une suspension provisoire, ça ne veut pas dire qu'elle est... Mais le règlement fait qu'elle ne peut pas jouer en compétition à ce moment-là. Il y a l'enquête qui est en cours, il y a les examens qui sont en cours.
Je veux dire, c'est l'opacité le
problème.
Exactement,
mais il communiquerait comme ça. Elle a été contrôlée, elle se défend, mais pour l'instant-là, elle n'a pas le droit de jouer. Donc elle est suspendue à titre provisoire. Bon, ben déjà, ça changerait beaucoup de choses. Anthony Reich.
En fait, Litia, si vous voulez, se cache derrière une règle du Code mondial antidopage qui est toute simple. Il n'y a aucune obligation de communiquer tant que la procédure n'est pas terminée et que la sanction n'est pas validée.
Ouais.
Et voilà. Et ensuite, il faut savoir.
Il y a que dans le tennis que c'est comme ça, hein, Anthony. Hein, parce que dans,
ah mais
dans
je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans l'athlétisme, par exemple, au moindre contrôle, on le sait tout de suite. Ouais. Et Lithia, il faut savoir, c'est une émanation d'une réflexion qui est née en 2016 suite au scandale, vous savez, à l'enquête britannique sur les scandales de matchs truqués dans les tournois du Grand Chelem. L'ITF, l'ATP, la WTA se réunissent en crise, en réunion de crise à Melbourne à l'époque, pour créer une entité indépendante de l'ITF et de l'ATP et de la WTA. Et à la base, l'ITIA, c'est pour lutter contre la corruption dans le tennis. Ce n'est absolument pas pour lutter
contre le dopage.
Contre le dopage. Et au fur et à mesure, cette structure est devenue indépendante. Plus aucun organisme, aucun organe du tennis mondial n'a de contrôle sur l'ITIA. Et ils ont pris en charge le sujet du dopage à partir de 2020. Donc c'est tout récent.
De façon très amateur pour l'instant.
Et c'est très intéressant que tu nous donnes cette précision. Je voudrais vous lire cette...
Ça apporte de l'eau quand même au moulin pour dire que... On ne peut pas trop camoufler, parce que là, de ce qu'il nous dit Anthony, c'est que depuis 2020, l'ITIA n'a plus aucune relation directe ou indirecte avec les instances du tennis, c'est-à-dire à l'ATP, WTA, l'ITIA.
En fait, au bord de l'ITIA, il y a un représentant de l'ATP, de la WTA, de la Fédération Internationale, mais in fine, ils n'ont aucun pouvoir décisionnaire majeur sur ce que l'ITIA projette comme politique, etc. Et il faut savoir que l'ITIA, ce sont des juristes, des spécialistes de certains pays qui étaient dans des organes antidopage, mais ils font appel pour les procédures et les contrôles à des spécialistes, à des agences type la FLD en France, par exemple, quand il y a besoin pour Roland-Garros, mais ils n'ont pas leur propre service d'antidoping.
Phrase très intéressante, c'était dans le journal L'Équipe du directeur général de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, Olivier Negli, qui dit « Aujourd'hui, il y a un problème de contamination. Ce n'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est que les laboratoires, et c'est ce que tu disais Julien, sont plus performants en détectant des quantités infinitésimales. Les quantités sont tellement faibles que vous pouvez vous contaminer en faisant des choses anodines. Mais la réalité, c'est qu'on entend plein d'histoires, et je comprends le public qui trouve que nous gobons tout. Et si on voulait se simplifier la vie, on mettrait des seuils. La question qui se pose, est-ce qu'on est prêt à accepter le micro-dosage.
Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que effectivement, les laboratoires sont de plus en plus performants, mais les dopés sont aussi de plus en plus performants. Et ils utilisent des micro-doses de PO ou d'autres choses comme ça, qui sont quasiment indétectables, qui disparaissent très vite de l'organisme. Et donc, c'est la lutte du gendarme et du voleur. Et donc, si tu fais des trucs de plus en plus pointus,
sur certains produits, est-ce que
il faudrait un seuil pour dire en dessous de ça, même si vous êtes positif, on n'améliore pas la performance.
Il faut apporter une précision, Pascal, on va parler d'une autre façon de se doper qui est en train de se développer dans le vélo.
Le monoxyde de carbone.
Tu verras. Ça développe le VO endogène en utilisant un gaz qui peut être mortel.
Et on en parle.
Les mecs sont prêts à tout.
T'es d'accord avec moi que c'est dommage que ça soit encore le cyclisme qui découvre ces nouveaux procédés.
Mais on en parlera demain, les copains.
Ce sera avec Jérôme Pinault et Marc Madiot. Donc soyez bien présents avec nous. On a envie d'avoir des spécialistes pour parler de ça. Juste Anthony Reich, il y avait une précision.
Oui, sur la triméthadizine, le produit qui est interdit, c'est interdit depuis 2014. Et ce qui peut expliquer la longueur de cette sanction d'un mois, c'est qu'en fait, comme tu le disais, Julien, tout seul, ce produit n'est pas dopant. Il est juste interdit depuis 2014 par l'Agence mondiale antidopage. En revanche, aujourd'hui, rien ne prouve que si on le mélange à un autre produit, voilà, là, est-ce que on ne sait pas encore si ça peut permettre sensiblement d'augmenter la performance. N'oubliez pas quand même que le nageur chinois Sun Yang, qui a été suspendu en 2021, 4 ans a été contrôlé positif à cette
molécule.
Et c'était souvent justement bien des sportifs asiatiques qui prenaient et qui pouvaient prendre ce médicament et cette substance, et ça arrive de plus en plus en Europe et donc notamment en Pologne avec ce cas d'Iga Świątek. Merci beaucoup Anthony Reich d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce débat et pour nous éclairer aussi sur cette substance. Sachez que nous sommes à 86%. Oui, c'est un problème. Le tennis a un problème avec le dopage, 14%. Non, mais en tout cas, c'était très intéressant de vous écouter, mes GG.